présenté Claire Hédon.
Bienvenue à tous ceux qui nous rejoignent pour cette deuxième partie de Priorité Santé. Aujourd'hui, nous parlons de la drépanocytose avec le professeur Frédéric Galactéros, qui est responsable de l'unité fonctionnelle maladie génétique du globule rouge à l'hôpital Henri Mondor à Créteil, en banlieue parisienne. Cette maladie du sang liée à une anomalie de l'hémoglobine est responsable d'anémie chronique, d'une tendance accrue à certaines infections et de crises douloureuses intenses. Alors, vous pouvez bien sûr continuer à nous appeler au 33 1 56 40 18 22 et nous terminerons en parlant de l'accès à l'eau potable. Professeur Galactéros, si vous le voulez bien, on va continuer à prendre les auditeurs qui ont téléphoné ou envoyé des emails. Et on a Saliou Cissé qui nous appelle de Matam au Sénégal. Saliou Cissé, bonjour.
Bonjour Claire.
Nous vous écoutons.
Bonjour.
Bonjour professeur. Voilà, c'est au cours d'une analyse de routine que j'ai appris que ma fille âgée de 30 ans est très, très phagocytaire. Malheureusement, un examen complémentaire n'a pas été fait pour déterminer le type de drépanocytose. Mes questions sont là, difficilement enchaînées. Quels sont les symptômes spécifiques à la maladie, la prise en charge et le coût du traitement, et enfin, les interdictions. Parce que elle est lycéenne et à chaque fois qu'elle fait l'éducation physique, elle a des problèmes de crampes musculaires, elle a des problèmes respiratoires et elle a des vertiges. Est-ce que ça veut dire que le sport est contre-indiqué chez cette maladie? Merci.
Oui, bonjour monsieur. Vous posez effectivement beaucoup de questions tout à fait pratiques. Quand on a un enfant drépanocytaire, donc vous-même vous prononcez pas sur le type exact de la maladie, je ne pourrais pas mieux faire mieux que vous, mais disons que si votre enfant est drépanocytaire, en ce qui concerne la pratique du sport, nous la décourageons pas tout à fait. Nous essayons de travailler avec les enseignants pour que les enfants ne soient pas soumis à des épreuves physiques trop prolongées, trop intenses. Mais je pense que c'est une mauvaise chose malgré tout de les décourager complètement de l'exercice physique en général. Nous décourageons la compétition et ou l'esprit de compétition, mais certainement pas un entraînement modéré, adapté à l'enfant.
Mais professeur Galactéros, si on suit ce que vous avez dit depuis le début de l'émission, je dirais que le premier conseil, c'est d'être sûr de savoir si sa fille est AS ou SS, finalement.
Oui, bien sûr, il faut commencer par là.
Et donc, salut, si je ne me rends pas compte, moi, je ne sais pas, Matam, c'est à combien de kilomètres de Dakar? C'est loin?
700 kilomètres.
Ah oui, c'est carrément
dans
loin.
Dans un village, on est à 700 kilomètres. Nous sommes au nord du Sénégal.
On va essayer de rejoindre le professeur Ibrahim Adiane pour savoir qu'est-ce qu'il y a près de chez vous comme centre où vous pourriez faire dépister votre fille pour savoir si c'est si votre fille est S ou SS. C'est ça en fait qu'il faut faire, hein, professeur Galactéros, dans un premier temps.
Absolument, parce que l'essoufflement à l'effort, ça n'a rien de spécifique de la drépanocytose. Il y a beaucoup d'autres maladies qui peuvent donner ce symptôme.
Et un bon traitement de la drépanocytose, ça commence par un bon dépistage.
Oui, le diagnostic tout d'abord.
Est important. Bon, merci beaucoup Saliou de nous avoir appelé et on va vous recontacter pour vous donner toutes ces coordonnées. On a Marc qui nous appelle de Clichy en banlieue parisienne. Marc, bonjour.
Oui, bonjour Claire. Bonjour professeur Galactéros.
Bonjour monsieur.
Nous vous écoutons.
Ben voilà Claire, justement, moi j'y interviens pour justement mon fils de 15 ans et demi, qui est drépanocytaire. Et bon, mon fils, maintenant, bon, tout va bien parce qu'il a un traitement, je crois les docteurs le connaissent, l'IDREA.
Oui,
alors, ce traitement, justement, ça fait 4 ans qu'il a ça, mais bon, tout va bien. Maintenant, pourquoi on est inquiet parce que ce traitement est à base de la morphine. Et je voudrais savoir, à long terme, de ces traitements, il n'y aura pas des conséquences.
Alors, professeur Galactéros, d'abord, est-ce que ce traitement est effectivement à base de morphine ou pas?
Non, mais c'est un traitement diminue très très largement les manifestations douloureuses et un certain nombre de causes d'hospitalisation chez les personnes qui le prennent. Ça fonctionne bien que si on le prend de façon très régulière, quotidienne. C'est vrai que c'est un traitement qu'on peut prendre pendant de nombreuses années. Il y a de nombreux cas de personnes qui l'ont pris depuis plus de 15 ans avec succès. C'est l'effet du médicament ne semble pas s'épuiser dans le temps pour la plupart des patients. Dire qu'il ne peut pas y avoir de conséquences d'un traitement, c'est évidemment non. Il n'y a pas de médicament au monde qui n'ait pas d'effet secondaire potentiel à surveiller. Mais ça, c'est vraiment la discussion qu'il faut avoir avec les praticiens qui se pédiatres qui s'occupent de votre enfant à Necker.
Il ne faut pas hésiter à poser des questions.
Bien sûr. Et donc, aucun rapport avec la morphine. La morphine, c'est un antalgique pur qu'on ne donne que chez les patients ayant des douleurs totalement insupportables.
Et professeur Galactéro, c'est plutôt une immense chance d'avoir accès à la morphine, parce qu'on sait que dans un certain nombre de pays d'Afrique, par exemple, il n'y a pas accès à la morphine. Or, les enfants souffrent énormément en cas de crise.
C'est un peu la même chose pour l'hydréa, d'ailleurs. Donc, il y a à la fois qu'on soit sur un traitement de type préventif des crises douloureuses ou un traitement de la crise elle-même, il y a des approches très intéressantes qui ont été développées en Afrique, mais il y a aussi des lacunes, et en particulier
ce traitement hydréa est rarement disponible.
Oui, voilà, et ce que vous dites aussi sur la morphine est tout à fait exact.
Marc, vous voilà rassuré ?
Oui, ouais, bien sûr, Claire. Une dernière question.
Oui, allez-y.
Alors, mon fils, il est aussi interdit d'en prendre l'avion. Pourquoi cette interdiction ? En fait, des longs trajets, hein.
Oui, c'est ça. Le principal danger dans l'avion, c'est la déshydratation. Et c'est d'ailleurs, c'est vrai pour tout le monde. Donc, il faut, quand on fait des trajets d'avion de ligne de plus de 3 heures, il faut veiller à une très bonne hydratation de l'enfant. Mais je vous conseille de faire la même chose.
Ah oui, c'est ça. Le conseil est valable pour tout le monde. Il faut s'hydrater en avion,
ouais,
absolument.
Spécialement les drépanocytaires.
Et c'est spécialement les drépanocytaires. Merci beaucoup, Marc, de nous avoir appelés. Et on a Lié Guiné, je ne sais pas si j'écorche pas votre nom, qui nous appelle de Gawa au Burkina Faso. Lié Guiné, bonjour.
Oui, bonjour, Claire Edon.
J'ai pas trop écorché votre nom.
Oui, Lié Guiné, sommet Lié Guiné.
D'accord. Nous vous écoutons.
Oui, oui. Oui, en fait, j'appelais... j'ai plusieurs questions, mais je vais résumer ça en 3 questions. Allô?
Oui, oui, nous vous écoutons.
Nous vous écoutons.
Voilà, je vais les résumer en 3 questions. Moi, je suis un drépanocytaire de 29 ans. SC. Voilà, quand j'étais plus petit, j'avais beaucoup plus de douleurs et de crises. Bon, au niveau de ma colonne vertébrale. Bon, souvent au niveau des membres aussi. Mais maintenant, à partir de ce moment, je n'ai plus de ces crises-là. Voilà. Mais mon médecin traitant m'a dit que non, ces crises pourraient revenir à une période de ma vie. C'est mon étude, à quelle période cela pourrait arriver. Voilà. Les grands frères de l'hypanocité que j'ai vus ont soit des paralysies ou bien des infirmités au niveau des yeux. Je voulais savoir à quelle période ça arrive et comment les éviter.
Alors, on va essayer de répondre à toutes ces questions, oui, Lié Guiné. On va essayer de répondre à ces questions. Tout d'abord, professeur Galactéros, alors, il nous dit, je suis drépanocytaire, SC. Alors, vous n'avez pas encore parlé de ça.
Oui, c'est une variété génétique de drépanocytose qui combine l'hérédité donc de l'hémoglobine S avec celle de l'hémoglobine C. Donc, ce sont des gens qui sont hétérozygotes, puisqu'ils n'ont pas la même hérédité sur chacun des deux gènes, mais ils ont deux gènes cependant anormaux, l'un de type S, l'autre de type C. Et là, il y a une maladie qui s'exprime. Et elle s'exprime sur une mode assez particulière, dans la mesure où effectivement, il peut y avoir beaucoup moins de crises douloureuses, mais il peut y avoir des complications plus fréquentes, et en particulier au niveau de la circulation du sang dans la rétine, c'est-à-dire dans les yeux. Et c'est une complication qui pourrait aboutir à la cécité, à la perte de la vue, si on ne la prend pas en compte. Et la prendre en compte, ça consiste à avoir un examen régulier de la rétine par un ophtalmologue en consultation d'ophtalmologie et si besoin des séances de laser pour supprimer le risque d'hémorragie qui pourrait conduire à la perte de la vue.
Et ces séances de laser, vous qui connaissez bien la situation en Afrique, elles sont faisables sur le continent africain ?
Ça se développe. Ça se développe pour deux raisons, parce que ces problèmes de rétine sont aussi très fréquents dans le diabète, et il y a une population diabétique non négligeable aussi en pays africain. Les drépanocytaires aussi.
Lié Guiné nous disait, mais finalement j'ai de moins en moins de crises, j'en avais plus quand j'étais petit, mais mon médecin me dit que ça peut revenir. Effectivement, ça peut revenir. Ouais. Vous êtes plutôt rassurant dans ce domaine.
Oui. Oui, je pense que quand on fait moins de crises, c'est pas par hasard. Et quand on en fait beaucoup, également. et qui se tient beaucoup au mode de vie et à la façon dont on a accepté, intégré la maladie dans son mode de vie. Et tant qu'on est en rébellion ouverte contre la drépanocytose, elle ne, malheureusement, ne nous pardonne pas.
Alors que quand on en prend bien conscience et qu'on a une bonne hygiène de vie... Alors peut-être que rappelez-nous, qu'est-ce que c'est une bonne hygiène de vie? Vous l'avez dit, il faut boire beaucoup, ça
oui,
on l'a compris.
Il faut aussi savoir se reposer quand on ressent de la fatigue. Il faut essayer d'éviter les circonstances trop stressantes et trop le surmenage. Donc ça, il faut avoir un exercice professionnel ou scolaire adapté à ses capacités physiques et au risque que cela pourrait déclencher des événements douloureux. Donc c'est la circulation du sang, c'est quelque chose d'assez complexe. Bien sûr, les globules rouges sont à la base de la maladie, mais en même temps, un vaisseau, c'est pas comme un tuyau métallique rigide, c'est quelque chose de vivant qui va pouvoir se dilater, se rétrécir, etc. Il y a beaucoup d'autres événements qui peuvent favoriser. Et si on prend par exemple le froid ou le stress, ce sont des facteurs de rétrécissement du diamètre des petites artères. Et donc là, ça peut favoriser les crises.
Liguenil, je crois que vous aviez une autre question à poser.
Oui, je voulais savoir, quel est le dernier traitement en cours contre la drépanocytose?
Ah, quel est le dernier traitement en cours? Je ne sais pas si vous pouvez répondre comme ça, parce que j'imagine que c'est à chaque fois adapté aux personnes.
Oui, c'est ça. Il y a effectivement une nécessaire individualisation des soins. Et donc, je peux difficilement vous répondre à titre individuel. Vous ne vous connaissant pas suffisamment bien, mais il y a de nombreux traitements potentiels dans cette maladie. Donc on a quand même une palette assez importante et ne nous laisse, on ne regarde pas la drépanocytose les bras croisés. Hein.
On progresse.
La transfusion sanguine, bien sûr. Dans certains cas, même si ça peut sembler très paradoxal, une très grande efficacité des saignées. Ça peut paraître bizarre, mais c'est comme ça. Et puis d'autres traitements médicamenteux ou autres.
Merci beaucoup, Liguenil, de nous avoir appelés. Bon courage à vous. Priorité santé, nous parlons de la drépanocytose avec le professeur Frédéric Galactéros, responsable de l'unité fonctionnelle maladie génétique du globule rouge à l'hôpital Henri Mondor à Créteil. Et on a Michel qui nous appelle, je ne sais pas très bien d'où vous nous appelez d'ailleurs, Michel, bonjour.
Oui, bonjour.
De Marseille.
De Marseille.
Absolument, nous vous écoutons.
Ouais. Voilà, en fait, moi je suis la vice-présidente d'une association des malades drépanocytaires et thalassémiques de Marseille. Et en fait, je souhaite témoigner par rapport à notre action sur cette maladie.
Vous êtes béninoise d'origine, hein, je crois, c'est ça?
Oui, voilà, je suis béninoise.
Et alors, qu'est-ce que vous faites justement? Parce qu'on a beaucoup parlé de sensibilisation. Qu'est-ce que vous faites dans ce domaine?
Ben, c'est surtout que, vous savez, il n'y a pas beaucoup d'informations sur cette maladie. Donc, nous, nos objectifs, en fait, c'est de faire connaître la drépanocytose et la thalassémie en région PACA, puis en France, redonner espoir aux malades et à leurs familles en favorisant les échanges et les rencontres. et soutenu la recherche de ces maladies orphelines. Donc, en fait, nous organisons des épatissements, des événements d'information, tels que les forums associatifs, et nous mettons en place des groupes de parole. Parce que les malades, apparemment, ils sont très isolés, ils ont besoin de s'exprimer. Voilà, en gros.
Professeur Galactéro, je voudrais vous faire réagir à ça, parce que je sais que vous vous appuyez beaucoup dans votre travail, que ce soit d'ailleurs à Paris ou quand vous allez en Afrique, sur les associations.
Oui, c'est essentiel ce qui vient d'être dit. La capacité que les malades, d'écoute que les malades peuvent rencontrer, c'est chez les médecins, chez le personnel soignant, mais également au travers des associations, des groupes de parole, comme ça a été dit, sont extrêmement bénéfiques, mais y compris bénéfiques sur le plan de la santé. Proprement dite, c'est-à-dire la probabilité d'être hospitalisé ou des manifestations de ce genre. Donc je crois que c'est difficile de le prouver, on ne fait pas ça comme un essai thérapeutique, néanmoins c'est notre conviction que les associations ne doivent jamais se décourager, même si elles ont parfois du mal à voir les résultats de leurs actions, ces résultats sont tout à fait importants.
D'accord, merci beaucoup en tout cas Michel pour votre témoignage. Je voudrais vous faire part d'une question d'Émile à Cayenne, donc en Guyane, qui voulait vraiment absolument poser votre question, on n'arrive plus à le joindre là. Il dit, pour avoir un enfant quand deux parents sont AS, l'insémination artificielle permet-elle de privilégier le gène sain et d'éviter finalement de transmettre la maladie à l'enfant? Alors je pense que là on va dans toute la question de la transmission de la maladie, ce serait important, professeur Galactéros, que vous nous expliquiez ce qui se passe.
Eh bien, on a dit tout à l'heure qu'en tant qu'être humain, homme ou femme, on a la fusion de deux moitiés d'hérédité paternelle et maternelle en nous, et qu'au moment où on se marie et on fait des enfants, chacun des parents va de nouveau donner l'un ou l'autre des deux gènes de l'hémoglobine qu'il possède. Évidemment, quand on est AS, rien ne permet de dire si on va donner A ou si on va donner S. Et pour le conjoint, pareil. Donc c'est une affaire à deux, bien sûr, dans la stricte égalité des chances. Et le résultat, c'est un enfant qui va être AA, AS avec S qui vient du père et A de la mère, AS avec la situation inverse, ou SS. Il y a en fait une loterie.
Une chance sur quatre, en gros, d'être SS.
À quatre papiers. Et puis, il y a un papier qui dit AA, un papier qui dit SS, et les deux autres disent AS. Et on ne sait absolument pas quel est le résultat de cette loterie tant que l'enfant n'est pas né, sauf si on fait ce qu'on appelle un diagnostic prénatal, qui consiste à aller voir ce qu'il en est avant la naissance.
Mais alors là, c'est sur le fœtus. Donc c'est donc au moment où la femme est enceinte, on peut analyser.
Oui, il y a différentes méthodes de prélèvement, qui d'ailleurs ne sont pas dénuées totalement de risques, qui permettent de savoir ce qu'il en est longtemps avant la naissance.
À combien de mois de grossesse quand on commence à ça?
Ça peut se faire, il y a une première possibilité de diagnostic aux alentours de 3 mois, qui correspond aussi à des nouvelles méthodes qui se développent, mais qui ne sont pas encore appliquées à la drépanocytose à partir du sang maternel. Jusqu'à présent, on est obligé de faire un prélèvement fœtal, au niveau du fœtus lui-même. Et puis, il y a une deuxième possibilité, qui est la ponction de liquide amniotique, qui se fait aux alentours de 4 mois et demi. 4 mois et demi.
Mais dans la question des 1000, moi, dans ce que j'en comprends, c'est qu'ils se demandaient, est-ce qu'on ne pouvait pas faire ce qu'on appelle le diagnostic préimplantatoire, voilà, qui permettrait justement, du coup, de n'implanter qu'un embryon sain. Alors, est-ce que vous pouvez nous expliquer si c'est possible ou pas?
Oui, et ça a déjà été fait de façon, au début, expérimentale. Et puis, maintenant, théoriquement, la drépanocytose est une application qui serait presque idéale, puisqu'il s'agit d'une mutation très simple à identifier, unique, non ambiguë. Et donc la possibilité de faire du tri d'embryons est très possible, à condition que les couples se prêtent à la chose, à savoir un recueil d'ovules et de spermatozoïdes, la constitution d'une collection d'embryons.
Donc d'une fécondation in vitro, dans des petits tubes,
entendu,
hein, c'est ça?
Oui, bien sûr, on n'est plus dans la fécondation naturelle, on est dans des fécondations in vitro sur de multiples ovules, donc de multiples embryons, ça peut aller jusqu'à 10. Et parmi ces embryons, on va chercher à trouver ceux qui ne sont pas SS. et cela pourrait être réimplanté. C'est une technique extrêmement pointue et difficile, et on ne peut absolument pas promettre à l'heure actuelle une diffusion de cette technique, à supposer que tous les obstacles juridiques et éthiques soient contournables, ce qui n'est pas sûr du tout. Et sur le fond, je parle pas de la capacité de les contourner habilement. Je parle sur le fond. Il y a des centaines, on peut considérer que chaque année, rien qu'en France, il y a plus de 1500 personnes qui peuvent avoir un enfant drépanocytaire chaque année. Il est né en 2007 405 enfants drépanocytaires en France. Donc si c'est une chance sur 4, vous multipliez par 4 pour savoir le nombre de couples qui étaient à risque, ça fait 1600. Et le diagnostic préimplantatoire permettrait de résoudre le problème pour un tout petit nombre de ces personnes.
Mais on n'y est pas encore, si je vous comprends bien.
Et puis c'est faisable, mais c'est vraiment au compte-gouttes.
Priorité santé sur RFI.
Alors nous l'avons vu hein, tout au cours de cette émission, l'hydratation est importante et pour ça, je dirais, il faut avoir accès à l'eau potable. Et justement, dimanche, c'est la journée mondiale de l'eau. Et à cette occasion, je vous propose de nous intéresser au travail de l'ONG Solidarité qui intervient notamment dans le domaine de l'accès à l'eau potable et de l'assainissement dans les pays en développement. Julien Jadot, bonjour.
Bonjour.
Vous êtes hydraulicien, vous travaillez pour Solidarité. Dites-nous en un mot d'abord ce que fait cette ONG avant de nous expliquer d'où vous revenez.
Alors, Solidarité travaille principalement dans trois grands champs d'action qui sont l'accès à l'eau, l'assainissement et à l'hygiène, la sécurité alimentaire et l'accès à l'abri.
Alors, vous revenez d'où? Parce que vous travaillez concrètement dans les pays en développement. Là, en ce moment, vous-même, vous revenez d'où? Et qu'est-ce que vous avez fait là-bas?
Alors, mes deux dernières missions étaient au Bangladesh et au Tchad. Au Bangladesh, j'ai réalisé un diagnostic qui vise à faire une évaluation des besoins des populations considérées comme étant vulnérables au risque par rapport à l'accès à l'eau et en vue de monter un projet pour répondre à ces besoins. Et au Tchad, j'ai réalisé également un autre diagnostic dans le même objectif et une petite évaluation d'un projet qu'on a lancé l'année dernière.
Et alors concrètement, justement, qu'est-ce que vous aviez fait l'année dernière? Est-ce que ça commence à se mettre en place?
Ah oui, tout à fait, ça s'est bien mis en place. On travaille sur un AD, un petit village frontalier avec le Darfour à l'est du Tchad. On est venu en aide à 18 500 personnes à peu près, dans la ville de AD et dans les villages alentours. Alors, AD comptait 3000 résidents au départ et a accueilli 9000 personnes déplacées. Les structures d'accès à l'eau n'ont pas permis à la ville d'assurer l'approvisionnement en eau potable de tout cet afflux de personnes. Et donc, Solidarité a étendu un peu le réseau, on a assuré le fonctionnement et a réalisé 7 puits dans la ville et dans les villages alentours. Et on a également, pour les villages où la géologie locale ou l'hydrogéologie ne permettent pas de creuser des puits, distribué 200 biofiltres à sable familiaux.
Et j'imagine que vous avez vu concrètement l'impact sur la population avec, entre autres, moins de maladies hydriques.
Alors, effectivement, d'autant plus que nos projets s'accompagnent systématiquement d'un volet de sensibilisation à l'hygiène et de gestion sociale de l'eau très important qui nous permet de pérenniser l'action de construction. Et oui, le fait d'apporter une eau potable permet de réduire les maladies liées à l'eau. La zone était notamment très sensible aux différentes diarrhées, à l'hépatite E et puis des maladies de peau et d'yeux. Et le centre de MSF sur la zone nous permet d'avoir accès aux données de santé.
Julien Jadot, merci. Je rappelle donc que vous êtes hydraulicien et vous travaillez pour l'ONG Solidarité. Pour ceux qui veulent en savoir plus, le site internet de votre ONG est sur notre site internet rfi.fr dans la rubrique Priorité Santé. Professeur Galactéros, pour terminer cette émission, je voulais qu'on finisse avec quelques conseils. Alors, on venait de parler de l'eau, là, vraiment boire beaucoup. Et boire beaucoup, c'est boire quoi? 1,5 litre, 2 litres d'eau par jour, c'est quoi?
Oui, c'est ça. Il ne faut pas boire excessivement. Le conseil que l'on donne, c'est d'éviter la déshydratation. C'est un peu différent. C'est-à-dire qu'il faut que l'enfant boive à sa soif. que le bourré d'eau n'est pas forcément très productif.
C'est ça, c'est pas non plus indispensable de
boire. Ça peut même être dangereux, parce que figurez-vous que l'eau dans la drépanocytose, c'est peut-être le premier et le meilleur des médicaments. Et on peut même donner une étiquette de médicament, puisqu'on sait comment ça agit sur le plan chimique dans la drépanocytose.
Une dernière question sur la recherche sur les traitements. Est-ce qu'on progresse aussi? Et est-ce que dans les derniers traitements, est-ce que vous arrivez à ce qu'ils soient disponibles en Afrique?
Oui, ça c'est vraiment un des problèmes qui se pose en particulier. On l'a mentionné pour les traitements antidouleurs, mais aussi pour l'hydroxyurée, l'Hydrea, vendu sous le nom d'Hydrea ou vendu éventuellement sous d'autres noms dans différents pays. Les traitements les plus radicaux, c'est la greffe de moelle, c'est la thérapie génique, avec un essai qui a lieu en France et qui, sur une maladie très très proche de la drépanocytose, qui s'appelle la bêta-thalassémie, est en train de donner de bons résultats. On a déjà un patient qui n'est plus transfusé alors qu'il devait l'être toutes les 3 semaines depuis maintenant pratiquement 1 an. Et c'est une première dans ce domaine. Alors, est-ce que ça peut être dispensé comme traitement en Afrique? Ça, on n'en est pas là.
Professeur Galacteros, merci. Lundi, nous parlerons d'un tout autre sujet, puisque nous parlerons d'aromathérapie. Vous pouvez dès maintenant nous faire part de vos questions, soit par email à priorité.santé@rfi.fr, soit par téléphone au 33 1 56 40 18 22. Bonne fin de semaine à tous et à lundi.
Vous souhaitez réécouter Priorité Santé? Rendez-vous sur notre site internet www.rfi.fr.